Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des Périphériques où vous parle de 18h à 19h. Dans la boutique, je ne savais pas quoi acheter. Je ne comprenais pas les étiquettes, je ne reconnaissais aucun produit. À part les légumes, bien sûr, encore que, ils avaient une drôle de couleur, je ne les trouvais pas lichons. Mais tous les trucs emballés, je n'y comprenais rien. Tout avait un nom bizarre. Même le riz, j'ai mis du temps à comprendre que c'était du riz. Il fallait que j'achète quelque chose, sinon ça fait la nana qui n'a vraiment rien compris. Ou alors ça fait la nana qui est venue voler. Je n'aime pas sortir d'un magasin sans rien acheter. Je me dis toujours qu'on me soupçonne. En plus, dans ce genre de magasin, on dirait que personne ne vole. Du moins, j'imagine que les voleurs vont ailleurs. Ils ne se compliquent pas la vie. Et puis, j'ai pensé aux baies de goji. Mais elles restaient introuvables. J'ai cherché un vendeur et lui ai demandé où elles étaient. Près des tisanes. Ça coûte une blinde, les baies de goji. 15 euros, genre 15 euros le petit paquet. J'en ai quand même pris un petit. Et pendant que je faisais la queue à la caisse, je regardais la tête des gens. Ça peut paraître étrange, mais les clients qui bouffent bio ont une drôle d'allure. On dirait qu'ils ne voient jamais le soleil. Ils sont tout pâles, comme les légumes. Ils ont les cheveux secs, la peau sèche aussi. C'est pas les mêmes qu'au supermarché. Ou alors c'est l'éclairage qui fait ça. J'ai même regardé la couleur de ma main pour voir si j'étais comme eux. Je la passais comme ça devant moi. Bref. En tout cas, je trouvais ces gens un peu extraterrestres. Même leurs fringues étaient différentes. Plus rêches, je dirais. Ils avaient tous des sacs en coton recyclé, comme celui du maître, ou des sacs en papier craft. En fait, j'avais l'impression d'être au zoo, et de découvrir l'existence d'une nouvelle espèce. Une sorte de communauté qui vivait parmi nous depuis toujours, enfin probablement, mais que je n'avais jamais vraiment remarqué. Des gens plutôt insipides, qui ne font aucun bruit et qui mènent leur petite vie d'une manière bien à eux. Mais je trouvais qu'ils avaient tous un air en commun. Je trouvais qu'ils avaient l'air fiers. On aurait dit qu'ils se sentaient supérieurs, ou du moins qu'ils détenaient une sorte de vérité sur la vie, sur les autres, sur l'univers. Des infos qu'ils ne partageraient qu'entre eux. En réalité, en plus du reste, ce qui m'a fait penser qu'ils étaient dans un monde à part et bien à eux, c'est une affichette qu'il y avait près de la caisse. Une pub pour un site de rencontres écolo, enfin de rencontres entre écolos, avec un slogan genre pour des relations durables. J'ai trouvé ça drôle, mais en même temps un peu sectaire, à croire que les mecs qui bouffent bio et qui trient leurs déchets ne copulent qu'entre eux. Finalement, ça aussi, c'est un peu du tri. Choisir son conjoint parce qu'il est écolo, c'est quand même limiter le champ des possibles. Bref, en tout cas, tous ces gens dans la queue, ils avaient des paniers remplis de trucs improbables. Bonjour Elsa.
Elsa Lévy qui vient de publier Bouddha,
Boudoir aux éditions Intervalles. Elsa, j'ai le plaisir de t'accueillir pour la deuxième fois. La première fois, c'est à l'occasion de la publication de Jeux de société. Et là, c'est un nouveau livre qui aura sans doute une suite, peut-être, déjà pressenti. Stylistiquement, c'est différent de Jeux de société. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'à partir d'une fiction, on a une sorte de peinture sociale, des mœurs aujourd'hui, ou des penchants, des tendances, de la vie parisienne, des questions de sociologie pratique autour de l'attirance, souvent prosélyte pour la spiritualité, les spiritualités un peu vaseuses, un peu bricolées. Dans ce livre-là, on a donc une serveuse, Virginie Baudet, qui donc fait un travail très routinier dans un bar ouvert toute la nuit et qui regorge de la présence entêtante de Bouddha. Et donc on a presque un espèce de récit prosaïque, la destinée sur une brève période de cette serveuse qui raconte les aléas de son travail, ses relations plus ou moins apaisées ou parfois conflictuelles avec le patron du bar, qui est un commercial opportuniste sans vergogne, justement prêt à sacrifier le foie des consommateurs pourvu qu'il fasse du cash. Et puis aussi une amitié qui se noue avec une autre serveuse, Magali. Magali qui aura une histoire de cul avec le patron du bar et qui est très bien décrite avec croustillance dans l'ouvrage. C'est une sorte de roman du quotidien, curieusement. Il n'y a pas de meurtre, il y a simplement une tête de Bouddha cassée que Virginie récupère un jour sans savoir pourquoi. Elle est presque tellement repue de la vision de ces Bouddhas qu'elle nourrit une haine rentrée pour ce Bouddha qui en fait beaucoup moins qu'elle dans sa posture
de méditation.
Pourtant, il va y avoir de la part de Virginie une espèce d'attirance trouble. Donc elle embarque la tête de Bouddha cassée en ayant le sentiment d'avoir quelque part commis un petit délit. C'était un Bouddha dont elle pensait qu'il serait éventuellement ultérieurement réparé, qu'elle va prendre dans une remise. Puis, curieusement, là on retrouve un peu les thèmes du travail précaire qu'on avait dans Jeux de société. Sauf que là, on est dans une vision beaucoup plus intimiste, alors que par exemple dans Jeux de société, on était dans un style où le personnage semble se décrire du dehors, semble glisser sur la surface des phénomènes, un peu à la manière de l'étranger dans Camus.
Il est désincarné.
Parce qu'il est désincarné, oui.
Le personnage principal, là, Virginie Baudet, elle a commencé à exister, puis à un moment dans ma tête, à parler. Et elle a commencé à prendre tellement de place que je l'ai laissée s'exprimer. Et au fil de son expression, bah, y a des personnages qui sont entrés et ça commence à ressembler à une fiction. Donc je me suis mise devant l'ordinateur à essayer d'accoucher toutes ces idées et puis ça a pris la forme d'une fiction. Ce que je n'avais pas fait pour Jeux de société, ce qui avait entre guillemets compliqué la publication parce que c'était un peu un ovni d'écriture. Et là, j'ai un peu aussi voulu rentrer dans des codes, pas littéraires, hein, mais de publication pour rendre plus accessible le propos qui reste quand même le même. Je ne cherche pas à dénoncer comment la société fonctionne bien ou mal, c'est plutôt un récit qui illustre ou qui observe comment tout se goupille. Et ce personnage vit presque à son insu une sorte de radicalisation spirituelle dans laquelle elle est tellement premier degré, Virginie, qu'elle prend tout comme on lui donne tout en ayant un œil critique, hein, mais elle est vraiment dans la curiosité d'essayer d'ouvrir une nouvelle vie et elle se laisse embarquer par tout ce qu'on lui propose, tout ce qu'elle entend, sans y adhérer non plus. Et petit à petit, voilà, elle fait son chemin. Mais dans l'écriture, c'est juste une réflexion et j'ai voulu adapter un format plus conventionnel à des idées qui sont en moi depuis un moment. Quoi.
Elle va prendre des cours de yoga,
elle va avoir une magnétiseuse, elle va...
Elle est presque obligée d'aller la voir, parce que c'est au moment où cette magnétiseuse se retrouve dans le même bar, comme par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, mais là il y en a plein, et ben, elle se sent toujours dans des traquenards, c'est-à-dire que parce qu'elle a une parole en quelque sorte, donc elle revoit cette femme et qui lui redit de venir la voir, donc elle y va, parce qu'elle se dit « merde, elle sait où je travaille ». Donc maintenant elle peut me trouver, enfin, il y a comme une sorte de parano aussi chez elle de vouloir faire les choses bien, parce que c'est quelqu'un qui essaye de faire bien. Et donc elle se laisse prendre comme ça au jeu des uns des autres, des rencontres plus fantasques, hein, les unes que les autres. Elle teste sans préjugés, même si après elle est quand même dans un certain jugement de ce qu'elle découvre, parce qu'il y a des personnages plus ou moins crédibles dans l'histoire, et voilà, elle se laisse aller à ça en sorte de lâcher prise sur...
Ouais, c'est une personne ouverte, mais qui n'est pas dupe.
Non, elle n'est pas dupe. Elle a l'air comme ça un peu naïve et candide, ou en réalité, elle a son idée sur tout, quoi. Elle fait une opinion sur tout, et d'ailleurs, elle se fait sa propre spiritualité, et elle ne se laisse pas sectariser. Il y a toujours cette chose-là, je trouve, dans les approches spirituelles. On rentre dans un cours de sophrologie, de méditation, peu importe, et on a rapidement l'impression qu'on rentre dans un huis clos, communautariste dans lequel il y a des règles, il y a des rituels, il y a du fétichisme, enfin, il y a quelque chose de très structuré, de très religieux en fait. Donc elle est un peu électron libre comme ça, au milieu de toutes ces propositions qu'on lui fait de spiritualité, mais elle se fait sa propre sauce.
On a l'impression que c'est une adhésion qui se fait presque comme une sorte de remède à la banalité d'un quotidien qui s'éternise, quoi.
C'est un peu un personnage banal, hein, en fait. Elle n'a pas une vie trépidante, elle n'a pas, elle a rien d'incroyable dans son existence, et tout d'un coup, elle a envie que ça change. Mais c'est inconscient, j'ai l'impression que ça c'est... Quand j'essaye vraiment de rentrer dans sa tête, c'est pas qu'elle subit, mais c'est qu'à un moment donné, elle décide de laisser faire.
Cette affection paradoxale pour le petit Victor, c'est une voisine qui lui demande de la garde en urgence parce que sa babysitter lui fait défaut au dernier moment. Et donc il va y avoir toute cette relation qui se noue. Progressivement, elle exprime à la fois son aversion pour cet enfant gâté d'une bourgeoise parisienne et en même temps elle se prend au jeu de découvrir l'ingénuité enfantine qui commence à la fasciner beaucoup. Elle ira jusqu'à proposer finalement, puisqu'elle est quand même bien rémunérée pour la garde de ce petit enfant, elle ira jusqu'à proposer à la mère de garder l'enfant, mais sans rétribution. Et là, il se produit...
Ça bascule,
c'est-à-dire suspicion.
C'est suspect, quelqu'un qui travaille gratuitement. Mais c'est surtout que ce petit Victor, il arrive à un moment de sa vie où elle est en quête absolue, existentielle, spirituelle, tout ce qu'on veut. Et il fait vraiment écho par rapport à, plutôt dans son parcours, elle entend parler que l'enfant intérieur, il faut renouer avec lui, etc. Et tout d'un coup, elle a une miniature qui devient presque un guide spirituel parce qu'il est de façon innée, instinctive, naturelle, tout ce qu'il faudrait qu'on ait tous. Et que la société, finalement, l'école, enfin, notre éducation nous fait perdre. Mais c'est comme revenir à la source. Et donc grâce à lui, elle retrouve les codes, enfin les non-codes plutôt, d'une existence pure et n'est pas conditionnée. Elle arrive à percer le mystère d'une certaine spiritualité grâce à l'enfance. Ce dont les gourous parlent, mais qui, quand ça reste un discours, une théorie, une méditation, bon, c'est un peu abstrait tout ça. Quand elle voit concrètement un enfant de 4 ans vivre, et elle l'observe comme un cobaye, avec beaucoup de dénigrement d'ailleurs, parce qu'au début elle n'adhère pas du tout à cet enfant qui est plus couillon qu'autre chose pour elle. Et petit à petit, elle se prend vraiment d'affection pour lui, elle est en admiration de sa façon de déambuler dans le monde, dans l'espace, de contempler, d'être juste un enfant. Et donc elle retrouve elle aussi ce fameux enfant intérieur dont tous les gourous lui parlent.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel en compagnie d'Elsa Lévy à l'occasion de la parution de son roman Bouddha Boudoir aux éditions Intervalle.
Il y a une sorte de peinture de la fascination pour les spiritualités, une forme aussi de dépolitisation du rapport au réel, de renoncement à la résolution collective des problèmes de la vie, au prétexte de trouver une voie personnelle, rédemptrice, ou en tout cas qui apporterait bien-être, bonheur, contemplation. Je suis très attiré toujours par les spiritualités, je me suis toujours intéressé. Sauf que je perçois le caractère charlatanesque de beaucoup d'offres et de prestations. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai lancé des recherches sur Google pour savoir ce que Bouddha ou d'autres maîtres avaient à dire sur la maladie. Tout ce que je lisais n'était pas vraiment concret, c'était juste des jolies phrases. Des phrases toutes faites, comme des slogans. Je pensais à l'état de Magali, je lisais les phrases, franchement ça ne voulait rien dire. Puis au bout d'un moment, je suis tombé sur des extraits d'un bouquin qui expliquait que toutes les maladies avaient un sens. En fait, il fallait comprendre que nous sommes comme une calèche. Notre corps, c'est la calèche, le cocher, c'est notre ego, et le voyageur à l'intérieur, c'est notre maître intérieur. Il fallait surtout bien s'accrocher pour continuer la lecture, parce que ça dépassait tout ce que j'avais pu lire jusqu'à présent. J'étais captivé, et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Enfin, la prétendue calèche est tirée par 2 chevaux, c'est surtout tiré par les cheveux. Mais bref, un cheval blanc et un noir symbolisant le yin et le yang et la route sur laquelle la calèche avance est notre chemin de vie, avec des virages, des bosses, des trous. Et les ornières sur le bas-côté sont les limites à ne pas franchir. En gros, le cocher ne connaît pas la destination. Seul le passager sait où il va. Du coup, il faut savoir faire des pauses pour discuter avec lui. C'est vrai que c'est plutôt logique d'essayer de comprendre l'origine du problème plutôt que de soigner les symptômes. L'article expliquait que chaque douleur a une vraie raison. J'ai lu « Les maux de l'âme sont les maux du corps » ou l'inverse. C'est joli en plus, non? J'ai compris que si Magali avait des maux aux ovaires plutôt qu'aux pieds, c'est parce que son rapport aux autres était sous tension et qu'elle pouvait avoir une crainte d'enfanter. Je trouvais ça un peu facile comme interprétation. En réfléchissant 3 secondes, je l'aurais peut-être même trouvée toute seule. En tout cas, je me doutais bien que même si Magali était au fond du gouffre, elle me prierait au nez si je lui sortais un truc pareil. À part l'histoire de la calèche, peut-être, qui était comme un joli conte. J'ai continué ma recherche et tout ce que j'y disais allait dans le même sens. La maladie avait quelque chose à enseigner. Elle proposait un temps d'arrêt à apprécier. Une modification de notre perception des choses, de la vie. J'ai trouvé des témoignages de personnes qui avaient été gravement malades. Certaines qui avaient même frôlé la mort. D'autres qui avaient carrément expérimenté la mort imminente. Et ils disaient tous préférer leur vie après la maladie. Comme si la maladie leur avait ouvert les yeux sur l'essentiel. J'ai lu un tas de trucs, j'ai pris des notes, j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations pour apporter des réponses à Magali au plus vite. J'étais impatiente de retourner à Cochin. J'étais sur le point de refermer les onglets quand en bas d'un site, j'ai vu un lien clignotant qui disait « Choisissez une mort écolo ». Je ne voyais pas le rapport avec l'écologie, mais j'ai cliqué. En gros, il faut savoir que lorsqu'on meurt, on laisse une grosse empreinte environnementale.
Elsa Lévy, qui vient de publier Bouddha Boudoir aux éditions Intervalle. Il y a une deuxième peinture, c'est peut-être aussi avec l'émergence dans notre paysage parisien du consumérisme bio. Les consommateurs des magasins bio sont dépeints ou sont vus par l'héroïne Virginie à rebours des bénéfices que serait censé leur procurer une nourriture saine. On se dit, mais comment se fait-il qu'en ingérant finalement une nourriture aussi saine, il en arrive à une physiologie aussi accablante et accablée ? Je suis un amateur de bio, j'ai un magasin bio, mais c'est vrai que j'ai repéré quand même.
Il y en a quelques-uns qui font peur.
Par là, le livre aussi pointe l'intolérance de certaines attitudes qui peuvent justement être rédhibitoires. On va vivre une conversion écologique des modes de production, mais à partir de là, on projette tellement de choses simplement en allant dans son petit magasin bio sur de la nourriture bio, que cela finalement devient très excluant des autres. L'héroïne qui se déchaîne en allant acheter ses merdes à l'épicerie du soir, en bouffant des cochonneries chocolatées, etc.
Il y a ce décalage entre elle qui est attirée par quelque chose de sain et qui en même temps a des habitudes complètement boulimiques, excessives de manger de la merde. Et donc c'est un peu aussi parce que au-delà de tout ce que Virginie me disait qu'il fallait que j'écrive, il y avait, sans paraître schizo, il y avait aussi une volonté réelle d'essayer de retranscrire ce décalage social dans lequel voilà, on vit dans une société quand même d'hyperconsommation. Cette même société nous vend du bien-être, de la respiration, du calme, du temps libre, de la contemplation. Et donc ce décalage qui est quand même visible et palpable, et ben il est presque gênant parce qu'on se demande si l'arnaque, elle vient du gourou qui essaye de nous aider finalement à entamer un chemin spirituel ou si elle vient d'une société qui arrive à en faire un business et qui parvient à... voilà, quand on va, je sais pas, on travaille toute la journée à la banque et le soir on va se faire sa demi-heure de yoga. Est-ce que réellement on est dans quelque chose qui est édifiant par rapport à ce que prônerait un vrai bouddhiste ou... Voilà, c'est juste cette façon qu'on a de juste se servir de quelques éléments qui nous arrangeraient. Et dans le bio, c'est pareil, hein. La question de comment les labels sont réellement censés ou pas, c'est pareil, c'est toujours ce petit truc de jusqu'où on est dans une démarche bienveillante, saine et désintéressée, et jusqu'où on commence déjà à être dans quelque chose qui est de l'ordre du commerce, du libéral, du rentable. Voilà. Oui. Et c'est ça qu'elle, je trouve que dans cette boulimie, puis en allant faire ses petits allers-retours au bio pour manger ses graines de goji, c'est une petite métaphore de cette dichotomie entre des choses qui sont complètement, qui sont incompatibles.
Et alors justement, on parlait de l'héroïne qui va quitter le bar.
c'est un choix consenti, c'est-à-dire conscient, mûri. Curieusement, là, il y a une espèce de débâcle. C'est comme s'il y avait l'affirmation d'une sorte de souveraineté. Non, je n'ai plus à dépendre d'eux. Je n'ai plus à subir les avanies d'un emploi déqualifié, qui me fait passer des nuits blanches, qui m'affaiblit, qui perturbe mon sommeil.
C'est par rapport à son rôle social, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'être pas pire qu'inutile, c'est-à-dire mauvaise pour les autres. Parce qu'elle entre dans la bienveillance, par Victor, par sa spiritualité, par sa sauce qu'elle se fabrique, et tout d'un coup, être hors malveillance pour servir des clients, c'est inconcevable.
Dans le livre où elle se retrouve finalement SDF à son insu sans le savoir.
Ouais, parce que ça c'est une vraie question. Le truc ouais. SDF. C'est est-ce que elle est SDF ou elle est juste assise, elle continue son chemin, et est-ce que les gens projettent sur elle. C'est ça la question en fait. C'est est-ce que c'est nous qui projetons sur les gens assis dans la rue une perdition ou... et socialement c'est ça, c'est que socialement elle est en chute libre. Par rapport à sa perte de statut, de travail, de revenus, de tout. Et qu'en même temps, intérieurement, elle est dans une montée existentielle. Elle est dans un épanouissement qu'elle n'a jamais connu auparavant. Elle est dans une découverte d'elle-même. Elle a l'impression d'être dans le vrai, en fait. C'est ça le danger de la pleine conscience. C'est que si réellement on était tous pleinement conscients de nos actes, de la façon dont on... de notre rôle social, de notre... rapport aux autres, de notre altruisme, si on avait vraiment une conscience pure et pleine, est-ce qu'on pourrait continuer à vivre dans une société qui fonctionne à l'opposé? C'est-à-dire une société qui fonctionne sur l'anti-épanouissement, il n'y a rien qui est conçu pour qu'on s'épanouisse au travail, pour qu'on contemple la nature, pour qu'on vive au ralenti. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. Donc si Virginie vivait au Tibet, ce serait possible, mais quand on nous propose ce genre de pratique, dans un environnement qui est un chaos tel, c'est un peu étrange. Donc si on veut vraiment appliquer ce que les cours nous proposent, eh ben, on peut se retrouver dans une situation de marginalisation, mais à son insu. C'est pour ça que je parle d'une suite, parce que c'est une fin provisoire de finir sur un trottoir en tailleur à méditer. Mais c'est un accomplissement, parce qu'elle s'est détachée de la matière, du matériel, de l'argent, de son patron, de toutes ces choses qui sont plus des obstacles à la réalisation de soi qu'autre chose. En fait. C'est les paradoxes des uns, des autres, d'une société, de tous nos environnements, des lieux de travail, de tout ce qui fait de nous une communauté, en fait. C'est basé sur d'énormes paradoxes. Et elle essaye d'être cohérente. Et malgré quelque chose qui peut, une finalité qui pourrait paraître absurde, ou en tout cas extrême, ben, j'estime que son choix est pur. Hein. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'au bout de ce qui lui semble juste à elle, par rapport à tout ce qu'elle a compris, tout ce qu'elle a lu, tout ce qui lui parle, en fait. Et donc elle est en accord avec elle-même, et pour le coup, sa pleine conscience est acceptable. Parce qu'on ne peut pas être en pleine conscience et en désaccord avec soi-même. Donc si on est en pleine conscience et que dans notre métier, on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'on penserait être bon, bah, ça s'appelle la dépression, le suicide, le burn-out, enfin toutes ces maladies actuelles. Et du coup, elle, sans mettre des mots comme ça dessus, mais elle échappe à une vie sans grand intérêt. Après, c'est un personnage qui, à l'origine, est très complexé. Physiquement, intellectuellement, enfin, elle n'est pas très bien dans ses baskets. Et petit à petit, même si socialement, elle devient une sorte de paria, elle se sent bien et elle n'a même plus de questionnement sur qu'est-ce que les autres pensent de moi. C'est-à-dire que l'arrivée des pièces qui lui tombent comme ça sur le goudron, c'est, ben voilà, on me paye en fait, c'est tout. Elle ne se demande pas, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Elle n'a pas du tout cette crainte-là. Et c'est ça qui est fort, je trouve, dans une quête spirituelle, c'est d'arriver au stade où on n'est plus... le regard des autres n'est plus un obstacle, on n'en a même plus... On en a conscience, bien sûr, mais ça ne devient pas une sorte de truc angoissant qui nous enferme, nous oppresse, nous empêche de vivre, de respirer.
Je vous recommande vivement la lecture de Bouddha Boudoir d'Elsa Lévy aux éditions Intervalle, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ironie, quoi. T'as une ironie particulière qui était très personnelle. On ne pourra pas tout à fait dissiper les arcanes du livre, parce qu'il y a aussi l'inconscient qui travaille, quand on écrit un bouquin. L'ellipse de ce passage de travailleuse invertérée à celle de SDF, improbable ou hors norme, atypique, dans les rues de Paris, simplement qui prend conscience parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a des mômes qui jettent des petits jetons par terre, etc., etc. Allez en librairie, procurez-vous l'ouvrage, délectez-vous de sa lecture. Thank you. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM. La liberté est plus vive que l'amour. Cette foi ardente nous porte à l'amour de soi. Si tu ne t'aimes pas, jamais tu n'aimeras l'autre. Cruelle et belle est cette vérité qui nous ensorcelle. Par une agence de voyage désorganisée, après le cirque de la solitude, j'ai traversé les gorges de l'inquiétude et les escarpements du val de la lune brisée, avec ses vignes sauvages et raflées par les étourneaux. J'ai bivouaqué en haute montagne, au col de l'utérus. J'ai dormi sur les dunes du repentir et sur les plages constellées de coquillages dans le delta des oubliés. La liberté est plus vive que l'amour. Cette foi ardente nous porte à l'amour de soi. Si tu ne t'aimes pas, jamais tu n'aimeras l'autre. Cruelle et belle est cette vérité qui nous ensorcelle. J'ai louvoyé sur les rivages encombrés d'oiseaux que les autochtones du pays axial eurent le don de baptiser. La côte du argent, et où se trouvent les récifs de la patience liliale, et ce encore des cadavres enjambés que butinent de grosses mouches vertes et bleutées, et le désert des évaporés où les fleurs de sable abondent, des roches mortes dorées par la lumière du soir dressaient leurs crénelures vers l'azur, lacéré par le couchant comme une mâchoire ébouriffée, mort dans une chair vermeille. La liberté, c'est ce dont l'un prive l'autre. La jalousie mortifie la vie. Si tu ne te connais pas, jamais tu ne connaîtras l'autre. Cruelle et belle est cette vérité qui tutoie le désir. La liberté est plus vive que l'amour. Cette foi ardente nous porte à l'amour de soi. Si tu ne t'aimes pas, jamais tu n'aimeras l'autre. Cruelle et belle est cette vérité qui nous ensorcelle. La liberté est plus vive que l'amour. La liberté, cette foi ardente, la liberté nous porte l'amour de soi. Si tu ne t'aimes pas, jamais, jamais tu n'aimeras l'autre. Cruelle et belle et cette vérité qui me sent sorcelle. C'est ce dont l'un prive l'autre. La liberté, la jalousie mortifie la vie. La liberté, si tu ne te
fait qu'il toile le désir.